2. New York. Le visage fermé, Alan réfléchissait en silence. Directement ou indirectement, c'est Tad Copeland qui a assassiné Joyce Carlyle, répétais-je.
C'est absurde, balaya le rédacteur en chef. On ne peut pas balancer des énormités comme ça sans preuve. C'est irresponsable. Copeland est peut-être républicain, mais c'est le meilleur candidat à la présidence depuis Kennedy. Il est hors de question que mon journal le mette en difficulté avec une histoire vaseuse.
Plus notre discussion avançait, plus je cernais la fascination ambiguë qu'entretenait Alan pour l'homme politique. Copeland était un homme de sa génération, un homme dont il se sentait proche idéologiquement. Pour la première fois, arrivait aux portes du pouvoir un républicain qui fustigeait les excès du néolibéralisme, prenait le contrôle des armes et prenait ses distances avec la religion. Le gouverneur de Pennsylvanie avait fait exploser les lignes du paysage politique américain. Par une conjonction d'éléments presque miraculeuse, il avait triomphé de tous les populistes de son camp. Pour être tout à fait honnête, moi non plus je n'étais pas insensible à la rhétorique du candidat. J'aimais lorsqu'il citait Steinbeck et Mark Twain dans ses discours. Lors des débats des primaires, j'avais jubilé lorsqu'il avait renvoyé Trump dans les cordes et mouché Ben Carlson. Copeland avait une feuille de route ambitieuse. Il disait des choses intelligentes auxquelles j'étais sensible. La volonté de réinscrire les décisions politiques dans le long terme, celle d'être le candidat de la classe moyenne, la conviction qu'il était intenable et mortifère que la croissance de l'économie américaine ne profite désormais qu'à une infime minorité de super-riches. Copeland était peut-être un type bien, ou du moins un des moins pires politiciens de ce pays, mais j'étais persuadé qu'il était impliqué dans l'enlèvement de Claire. Pourtant, je choisis un autre angle pour rallier Alan à ma cause. « Vous voulez que j'aille plus loin ?» dis-je. « C'est aussi Copeland ou son entourage qui sont responsables de la mort de Florence Gallo. »«
Ça suffit !»
explosa-t-il. Pour le convaincre, j'abattis coup sur coup mes deux cartes maîtresses. La localisation de l'appel au 911 qui correspondait à l'adresse de Florence, ainsi que l'ADN de Blunt Liebowitz retrouvé sur les lieux du crime. La conjonction de ces deux événements plongea le journaliste dans la perplexité. Dès que le souvenir de Florence se réveillait, Alan se métamorphosait. Ses traits se durcissaient, son regard s'embrasait, ses rides se creusaient. « Vous connaissez Liebowitz ? » demandai-je.
« Bien sûr, » répondit-il agacé. « Tous les journalistes politiques qui ont déjà approché Copeland savent qui est Blunt Liebowitz, son garde du corps personnel. Il gravite dans son entourage depuis longtemps, c'est l'oncle de Zora Zorkin. »
C'était la deuxième fois que j'entendais ce nom. Alan éclaira ma lanterne.
Zora Zorkin est l'ombre de Copeland. C'est sa directrice de campagne et sa principale conseillère. Elle l'accompagne dans tous ses déplacements. Elle a travaillé à son cabinet lorsqu'il était gouverneur, et avant ça, c'est elle qui avait manœuvré pour le faire élire à la mairie de Philadelphie. Je ne vous dis pas que Copeland est une marionnette, mais sans Zora, il serait encore prof de droit à peine.
Pourquoi je ne vois pas du tout qui c'est ?
Parce qu'elle est discrète et que le grand public ne connaît pas vraiment les éminences grises, même si c'est en train de changer. Il y a 3 mois, le New York Times l'a mise en couverture de son magazine, avec ce titre « Sexiest Brain of America ». De vous à moi, je pense que ce n'est pas exagéré.
Qu'a-t-elle de si extraordinaire ? Alan plissa les paupières.
Longtemps, à cause de sa dégaine, personne ne s'est méfié d'elle. Mais ce temps-là est terminé. Tout le monde sait aujourd'hui que Zorkin est une joueuse d'échecs pleine de sang-froid qui a toujours plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Pendant la campagne pour les primaires, elle a été d'une efficacité redoutable pour récolter des fonds, en particulier auprès des patrons de la génération Facebook qui avaient fait leurs études avec elle. Alors qu'il était encore très bas dans les sondages, Copeland a pu se maintenir à flot grâce à cet argent et attendre que la tendance se retourne. Si Zorkin est donc une tacticienne et une stratège hors pair, c'est aussi une spécialiste en coups tordus. Un pitbull enragé qui ne relâche jamais sa prise.
Je haussai les épaules.
C'est comme ça partout, dis-je.
Dans le business, la politique, le spectacle. Tous les hommes de pouvoir ont besoin de quelqu'un pour se salir les mains à leur place. Tout en m'approuvant de la tête, Alan appuya sur l'interphone pour joindre Chris et Cross.
Les enfants, balancez-moi tout ce que vous trouverez sur l'emploi du temps du gouverneur Copeland le samedi 25 juin 2005.
J'étais dubitatif sur cette démarche.
Le jour de la mort de Joyce ?
10 ans après, qu'est-ce que vous espérez découvrir ?
Tout cela me dépasse, soupira-t-il. Mais vous allez voir de quoi Chris et Cross sont capables. Ils utilisent un algorithme intelligent qui va chercher l'information avec une rapidité fulgurante dans la presse de l'époque, les sites web, les blogs et les réseaux sociaux. Vous le savez aussi bien que moi, avec Internet, rien ne s'efface. L'homme a créé un monstre qu'il ne maîtrise plus. Enfin, ceci est une autre histoire.
Pendant qu'il devisait, Alan avait appuyé sur la télécommande pour jeter un œil sur les chaînes d'infos qui retransmettaient la convention républicaine. Au Madison Square Garden, devant 10 000 personnes, les orateurs se succédaient pour brosser de leurs candidats un portrait élogieux. Sur plusieurs écrans géants, des personnalités du sport et du spectacle applaudissaient en poussant des exclamations ferventes et exaltées que je trouvais ridicules. L'avant-veille, les délégués du parti avaient voté pour désigner leur candidat. Dans moins d'une heure, Tad Copeland prononcerait son discours d'intronisation. Puis ce serait le traditionnel lâcher de ballon et la pluie de confettis tricolores.
« Alan, on t'envoie des trucs !» annonça la voix d'Erica Cross dans l'interphone.
Des documents commencèrent à s'afficher sur les moniteurs accrochés au mur. Chris précisa. « Depuis 2004, l'agenda officiel du gouverneur est en accès libre sur le site de l'État de Pennsylvanie. Il suffit de savoir le récupérer. Voici donc celui de la matinée du 25 juin 2005.
9h-10h30. Round final de négociations avec les syndicats pour entériner les mesures visant à améliorer l'efficacité des transports publics.
11h-12h. Rencontre avec les enseignants du lycée de Chester Heights.
Et voici toutes les photos d'articles de presse ou de blog que j'ai pu récupérer pour ces deux événements, annonça la rouquine.
Une série de clichés apparut sur les écrans. Copeland prenant la pause avec les syndicalistes, puis avec les profs et les élèves.
« Zora et Blunt ne sont jamais très loin », remarqua Alan, en désignant avec son stylo la silhouette massive du garde du corps et celle plus fluette d'une femme sans âge, souvent en partie masquée ou coupée sur les photos.
« Pour l'instant, rien d'anormal », dis-je.
« La suite est plus intéressante », me répondit Chris. Les deux rendez-vous suivants étaient inscrits dans l'agenda de Copeland pour l'après-midi.
12h30, 14h. Déjeuner et échange avec les personnels des maisons de retraite du comté de Montgomery. 15h, inauguration du complexe sportif Métropole dans le Northeast Philadelphie.
Mais Copeland s'est fait porter pâle, compléta la journaliste. Dans les deux cas, il était présenté par Annabelle Chivot, vice-gouverneur.
Ça, ce n'est pas logique, admit Alan. Le Northeast a toujours été le quartier fétiche de Copeland et je connais le Métropole. C'est un projet gigantesque, pas une salle de sport en préfabriqué. Pour que Copeland loupe cette inauguration, il s'est forcément produit un événement important et imprévu.
À présent, l'excitation d'Alan était palpable et communicative.
Je suppose qu'on n'a pas revu Copeland à Philadelphie de toute la journée.
Détrompez-vous !
S'exclama Chris en envoyant une nouvelle image.
À 18h, il a assisté au match de basket des Philadelphia 76ers au Wells Fargo Center devant plus de 20 000 personnes.
Je me rapprochais du moniteur.
Arborant écharpe et casquette de supporter, Copeland n'avait pas le visage de quelqu'un qui vient d'assassiner une femme. Mais il n'y avait rien d'étonnant à cela. Tout le monde sait que les hommes politiques sont capables de faire semblant.
T'as d'autres photos du match ?
Une nouvelle salve de clichés envahit les écrans. Cette fois, sur aucune d'entre elles, on n'apercevait le garde du corps ni la directrice de campagne.
Erika, trouve-moi des photos d'autres matchs, demanda Alan.
C'est-à-dire ?
Des matchs joués au Wells Fargo, un peu avant cette date.
Une trentaine de secondes s'écoulèrent avant que la jeune femme reprenne la parole.
J'ai dégoté ça, par exemple. Un match contre les Celtics la semaine précédente et un autre contre Orlando fin avril.
Pour ces deux rencontres, la même scène se répétait. Zora était assise un rang derrière le gouverneur. Sur certains plans larges, on apercevait aussi la carrure massive de Blunt Liebowitz debout dans la travée.
« Regardez, Zorkin est toujours à la même place derrière Copeland, sauf ce fameux samedi 25 juin. Ce n'est pas un hasard, Alan !»
Le rédacteur en chef ne trouva plus rien à m'objecter.
« Combien de temps faut-il pour faire le trajet de Philadelphie jusqu'à New York en voiture ?» demandai-je.
« Avec les embouteillages, je dirais 2 bonnes heures. »
Me reculant dans mon fauteuil, je fermai les yeux et pris 3 minutes pour réfléchir. J'étais sûr d'avoir compris ce qui s'était passé en ce jour de juin 2005. Je devais seulement choisir les bons mots pour entraîner Alan avec moi. Il fallait qu'il m'aide, car pour la première fois, j'entrevoyais une solution pour localiser Claire et qu'elle me revienne saine et sauve.
« Tout est limpide, Alan, » dis-je en rouvrant les yeux avant de dérouler pour lui mon scénario.
Ce samedi-là, le gouverneur, Zora et Blunt quittent Philadelphie en voiture, en début d'après-midi.
Copland a rendez-vous avec Joyce. L'entretien se passe mal. La conversation dégénère en dispute. Copland panique et la tue. Puis il découvre que Florence l'a enregistrée à son insu. Il revient à Philadelphie seul, sans garde du corps, pour assister au match de basket et donner le change. Pendant ce temps, Blunt et Zora restent à New York et s'occupent du sale boulot. Déplacer le corps de Joyce et maquiller la scène de crime pour faire croire à une overdose et mettre Florence hors d'état de nuire. Tout se tient, bon sang! Accablé, Alan posa la tête entre ses mains. J'avais l'impression d'être dans son crâne. Un chaos bourdonnant où la colère se mêlait au chagrin. Peut-être repensait-il au mois de bonheur avec Florence, ce moment où tout était encore possible. Avoir des enfants avec elle, se projeter dans l'avenir. Avoir la sensation grisante d'être un acteur et non un figurant de sa propre vie. Peut-être se représentait-il la mort atroce qu'avait endurée la seule femme qu'il eût jamais aimée. Peut-être songeait-il au temps qui depuis avait filé. Un temps passé à s'abrutir dans le travail. Peut-être se disait-il que finalement, Marilyn Monroe n'avait pas tort lorsqu'elle affirmait qu'une carrière réussie était une chose merveilleuse, mais qu'on ne pouvait pas se pelotonner contre elle la nuit quand on avait froid.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»
me demanda-t-il en me regardant comme s'il émergeait d'un lourd sommeil. « Vous êtes prêt à m'aider, Alan ?»«
Je ne sais pas si je suis prêt, mais je vais le faire. »
En souvenir de Florence. « Est-ce que vous avez un moyen de joindre Zorkin ?»«
Oui, j'ai un numéro de portable. Celui que j'ai utilisé pour négocier avec elle l'interview de Copland. »
Tandis qu'il cherchait dans le carnet d'adresses de son téléphone, je composais un bref SMS qui disait seulement « Je sais ce que vous avez fait à Florence Gallo, à Joyce Carlyle et à sa fille.
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, Raphaël. Ils traceront facilement votre téléphone. Vous serez localisé en moins de 10 minutes.
Mais c'est bien ce que j'espère, répondis-je. Moi aussi, je sais jouer aux échecs.